écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, des garçons aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. d'habitude, je peux vous faire un petit, disons, un petit journal de bord de ce qui m'est arrivé durant tous ces mois où je n'ai pas enregistré. Je vous dirai aussi ce que j'ai fait. Je commence d'écrire le lever de rideau. Nous sommes le mercredi 17 mai 2006 et il est 8h05. Il fait beau et soleil. J'écris, mais je ne sais pas ce que je vais écrire. Je sais que malgré tout, que je n'ai pas d'idée ni d'envie d'écrire, que je dois écrire pour ne pas perdre l'habitude. J'ai tout de même fini le résumé du garçon aux yeux verts et du résumé, si l'on peut appeler ça comme ça, de ma vidéo sur la fin du monde, ou plutôt la fin de l'homme. Le garçon aux yeux verts, j'ai pas tellement envie de l'écrire. Je me sens pas la force de le développer, surtout à cause du début qui va être difficile. Parce qu'il parle de jours heureux et que c'est plus facile de parler de malheur. Je commencerai sûrement à écrire cette année et à enregistrer l'année prochaine. Pour ce qui est de la vidéo, ça ferait cette année. Mais avant de la commencer, j'attends la réparation d'une de mes caméras et d'un de mes magnétoscopes. Il y a toujours un ou deux appareils qui tombent en panne. Toujours pas de nouvelles de Frédéric. J'attends jusqu'en juin. Après, je paye quelqu'un pour aller à la radio. Il n'a pas à me punir de radio. Je lui laisse mes factures de produits. Mais je ne lui laisse pas pour la SCAM. Il faut qu'il me tamponne pour la SCAM, du moment que mes émissions sont diffusées dans sa radio. Il faut que Guillaume comprenne que j'ai ma vie et qu'il ne doit pas me téléphoner comme ça. La journée, ça peut aller, mais le soir ou la nuit, non. Sa dépression vient qu'il ne supporte pas d'être seul et qu'il est trop timide à peur des autres, qu'il se sent en infériorité vis-à-vis des autres. Il y a des difficultés à avoir des relations amicales parce que sa peur lui colle à la peau. Il a perdu plus de 10 ans de sa vie à cause de la drogue et de sa dépression. Pendant que les autres de sa génération continuaient à avoir des relations, lui s'était isolé. Alors plus de 10 ans d'isolement fait le vide autour de soi. Et en plus, il a sa timidité maladive qui n'arrange pas les choses. Il doit reprendre confiance en lui, se faire de nouvelles connaissances de gens qui ne l'ont pas connu avant. Parce qu'il a été catalogué, drogué, chiant, crampon. S'il veut sortir de la nuit et aller à la lumière, il doit ne doit plus voir ses anciennes relations. Ne plus prendre de drogue, vin. Mettre toute son énergie à entrer dans le monde du travail, se faire une santé, sortir pour voir du monde, pour se faire de nouvelles relations, démontrer à ses parents qu'il n'est plus un petit garçon. Il faut qu'il lise, écrive, parce qu'il a beaucoup de talent. Il doit arrêter de se dire chaque fois qu'il a un problème qu'il ne lui reste plus qu'à se flinguer. Ou c'était mieux lorsque j'étais malade. Il doit au contraire faire face aux difficultés. Voilà pour Guillaume, qui je crois va avoir pas mal de chemin à faire avant d'arriver à la lumière. j'ai vu hier sur M6 émission sur l'Algérie lorsqu'elle était française. Beaucoup d'oubli, surtout sur la conquête de l'Algérie, mais c'était dans l'ensemble assez bien. Il était inévitable que l'Algérie, comme toutes les autres colonies, devait avoir leur indépendance. Napoléon III l'a dit, lors d'un voyage là-bas, que les Algériens avaient leurs coutumes, culture, et ne seraient jamais français parce qu'ils tenaient à leur culture, religion. Je ne sais pas quel est le crétin qui a transformé cette colonie en un département. Les Algériens ont toujours demandé à être libres. La décolonisation aurait été moins terrible, ce serait fait d'une façon plus calme si les Américains et les communistes n'avaient pas attisé le feu. Les Américains ont accéléré la guerre d'indépendance lorsqu'ils ont débarqué en Algérie en 1944 pour ennuyer les Français. Et les communistes l'ont fait par idéologie et aussi parce qu'ils croyaient que les pays décolonisés allaient avoir un régime communiste. Les communistes voulaient imposer une idéologie à ces pays décolonisés, mais cette idéologie ne faisait pas partie de leur culture. Les communistes, à leur façon, ils colonisaient le pays décolonisé. Si ces pays avaient été colonisés par les idées communistes, ils auraient été traités comme tous les pays de l'Est, c'est-à-dire sous les ordres de la Russie, et interdiction de sortir de ce grand monde idéologique. En fait, les communistes libéraient les pays colonisés pour se les coloniser, et ceci au nom de la liberté prolétarienne. Heureusement que la chose ne s'est pas faite. Les colons, qui étaient pour beaucoup d'origine étrangère, auraient dû donner une partie de leurs biens aux Algériens. Il vaut mieux donner que l'on vous prenne, parce que l'on sait ce que l'on donne. La décolonisation aurait pu se faire plus en douceur sans les Américains, les communistes, et si les communistes ne s'en étaient pas mêlés. Et si les colons auraient été plus coopérants, ils auraient pu garder une partie de leurs biens. Et même après la décolonisation, peut-être certains auraient pu rester chez eux. À tout vouloir, l'on n'a rien. Le problème n'est pas fini, parce que l'on traite les pays qui ont été nos colonies, pas comme des pays souverains, mais comme des pays soi-disant privilégiés. Et la double nationalité, qui est une aberration, est qui ne marche que dans un seul sens, est une colonisation soi-disant humanitaire, ce qui est plus mauvais que la vraie colonisation, qui dit vraiment ce qu'elle est. Parce que là, la colonisation se fait cacher par l'humanitaire et la double nationalité qui en est la force première. Il faut pour la dignité, la liberté de l'Algérie et des autres pays supprimer la double nationalité pour qu'il y ait une vraie amitié entre la France et l'Algérie. Plutôt, une vraie entente sans sous-entendu. Il faut que les pays aient des rapports de pays souverain à pays souverain. L'égalité se trouve là et pas ailleurs. Pour finir de parler de cette décolonisation, les Français de France, de l'Algérie, ils n'en avaient rien à foutre. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Algérie égale une ville blanche du désert des Arabes. L'égal d'Algérie, ils n'en voulaient pas. Ils pleuraient pour leur enfant, Marie, qui allait se faire tuer pour ce bout de désert. Ils avaient peur des bombes, des ponts qui sautent, avaient peur d'aller au café, cinéma. Et oui, pour les partisans de l'indépendance et les autres, ils faisaient des attentats en France, chose que l'on a oubliée. Les gens avaient peur de passer les ponts, etc. Quant à moi, personnellement, j'étais très jeune, un enfant. Et la guerre ne me disait rien. Les enfants ne lisaient jamais les journaux et ne s'intéressaient pas à l'actualité. Bien sûr, je savais qu'il y avait la guerre, mais sans plus. Pour moi, l'Algérie, c'était ce que l'on m'apprenait vers la fin de l'année scolaire dans mon livre d'histoire. La conquête de l'Algérie, la gifle de l'ambassadeur français qui en réalité avait été un viol, la casquette du père Bougeot et quelques petites choses en plus. Les voyages étaient longs, très chers, et très peu pouvaient se payer un voyage. Alors l'Algérie, c'était loin, comme le reste du monde. Et puis en France, on était bien. L'ennemi avait été chassé, on avait du travail. On ne partait pas en vacances pour la plupart, mais quelle importance. L'on était heureux de peu de choses et l'on faisait jouer son imagination avec des riens. L'on créait des jouets, des choses à faire. Les jouets, on n'en voyait qu'une fois par an dans les magasins. Les magasins n'en avaient pas autrement les autres jours de l'année. Nous n'avions pas d'argent de poche ou juste pour s'acheter des malabars, des bandes dessinées noires et blancs ou un livre bibliothèque verte ou rose. Oui, ou bibliothèque verte ou rose. On s'ennuyait moins que les jeunes de maintenant parce que l'on faisait marcher son imagination. Oui, on faisait marcher son imagination pour s'amuser. Maintenant, ils demandent de l'argent lorsqu'ils s'ennuient pour s'acheter une merde, un CD, un DVD, jeux vidéo, etc. L'évêquement allait du grand au petit sans histoire. L'amitié ne se faisait pas par les habits ou le fric, mais par le cœur. Nous étions amis pour la vie. Oui. Pour la vie, les mains vides, mais le corps gros. Perdre l'habitude d'écrire, oui, d'écrire. Depuis, quand je suis à la retraite, j'ai peur de perdre mon temps. Un écrivain, un auteur, ne doit pas être engagé politiquement ou autre, parce que s'il l'est, il s'auto-censure et s'interdit certains thèmes. Des personnages peuvent l'être pour faire avancer l'histoire ou pour montrer leur caractère. L'écrivain, l'auteur doit être universel et chercher à comprendre tous les gens humains. Mais s'il le désire, il peut. Toucher le genre humain. De toute façon, il le transforme en le sublimant. Pour qu'une œuvre soit de création, il faut qu'elle soit sublimée. Autrement, c'est de la du documentaire ou de l'actualité. Le documentaire peut être une œuvre, mais pas de création pure, parce qu'elle montre la réalité. L'auteur crée un monde et fait tout pour qu'on le croie vrai. un monde où ces personnages soient plus vrais, sont plus vrais que nature, parce que l'on sait tous deux, même leurs choses les plus intimes, leurs pensées les plus intimes. Ça ne me dit plus rien d'aller à Paris. J'ai digéré Paris et ses fantômes. Le temps a passé. Tout a été dissous. Les décors ont changé. Les personnages ont disparu ou ont été défigurés. L'air de Paris n'est plus le même. Toute histoire romancée, il y a un drame intime de l'auteur à ne pas oublier, chez moi comme chez tous, et de tout temps, même dans les temps les plus reculés, l'autre a toujours écrit son drame ou ses peines, c'est la même chose. Quelles que soient les époques, les drames se ressemblent, parce que les peines sont toujours les mêmes, c'est l'éternel retour, etc. Ce samedi 17 juin 2006, avant de me réveiller, j'ai fait un rêve étrange. J'étais avec un groupe de gens que je connaissais, qui étaient un millimélo de personnes qui avaient travaillé avec moi, soit chez Fantasia en 1960-70 et BBA. Nous marchions et montons les escaliers des pentes de la Croix-Rousse. Nous avions près de nous des haches, et cela nous excitait. Je voulais qu'il sache que j'étais son ami, et en même temps, je ne voulais pas qu'il ne le sache, parce que je le connaissais. Je disais que dans son dernier film, que dans son dernier film, où on le voyait jouer du piano, qu'il avait été doublé. J'étais surpris et lui dis que je croyais qu'il jouait vraiment du piano. Il me dit qu'il avait été bien doublé. Et alors je m'imaginais la chose. Il me dit encore que durant le tournage du film, il avait eu très froid, surtout les derniers temps. J'étais heureux qu'il soit près de moi. Puis mes camarades se demandaient qui était le mieux de moi ou de lui. Il disait à lui, moi, je leur dis que j'étais d'accord. Puis, nous sommes allés dans une morgue, voir un cadavre, humide, mouillé, ambiance lugubre. Puis, je retourne à la morgue. Il y a des femmes. Il me fait passer par une pièce humide, où il reste des traces de sang et travaille sur le corps. On me dit que c'est interdit de faire ça ici. On me mène à une autre pièce qui aussi a des traces. Nous ne sommes pas contents. On le dit. Il y a de l'eau à terre. Des taches de sang. On me donne une grande enveloppe que l'on met dans mon cartable. Je vois qu'elle est tachée de sang et n'osant rien dire. La personne qui est avec moi voit des femmes et me dit qu'on ne peut pas compter sur elles. Elles ont pas le droit de travailler les corps dans cette pièce. On met l'enveloppe tachée dans mon cartable côté fermeture éclair. Voilà, je me réveille, bizarre, de rêve. Oui, de rêve, où deux histoires, où scènes se croisent. La scène avec mon ami et la morgue. Ça n'a ni queue ni tête, c'est peut-être la première fois que je rêve de mon ami. En ce moment où j'ai tout dit dans une de mes histoires, où je me sens vidé, pour la première fois, j'ai regardé le film dont il était question dans son rêve. Je l'ai regardé et je me suis endormi en le regardant. Pour la première fois, oui, pour la première fois. Peut-être est-ce la fin de cette histoire, de ce monde. Ou ma fin proche. Oui, ma fin proche. Fait un cercle cette année, et cercle est fermé. Disparaît mes fantômes. Disparaît mes fantômes que j'ai fait revivre peut-être pour la dernière fois dans mes histoires que j'ai écrites. Et enregistré en 2006. Oui, disparaître mes fantômes. L'industrie n'est ni noble, ni religieuse, ni politique. Elle est bourgeoise, avide, avare, et voilà tout. Lamartine est, il avait raison. Je n'ai jamais été heureux. Je ne le serai jamais. La vie est un grand vide, un puits sans fin, sans fond. Je ne supporte pas ce vide froid et laid. Pour supporter la vie, j'efface ma vie en imaginant un autre monde à moi, mais avec plein de vie en plus. Il y a des moments où l'on souffre tellement de se dire qu'il est trop tard, que ceux que l'on aime, l'on ne peut pas seulement les approcher. Rien n'est plus terrible que se trouver seul au milieu des autres on a l'impression d'avoir 1000 ans. Jean ne regarde ou n'écoute que ce qui les intéresse. Ils ne voient de leurs amis que ce qu'ils ont raté. Pour l'anniversaire de Mozart, le pauvre. Le mariage de Figaro dans un camp de concentration. Le comte, un SS. Les domestiques, des juifs, etc. Pas de décor, fond noir, costume nihiliste. Le metteur en scène dit « Mozart avait prévu la venue du fascisme. On le voit bien dans cette œuvre. » On assassine les œuvres. On fait jouer à l'harmonica ce qui a été prévu pour l'orgue. On transforme les personnages en punk ou concierge. Et ceci pas que pour Mozart, pour les autres aussi. Par exemple, le jeune Werther de Goethe, qui est une belle histoire d'amour, se transforme en histoire contestataire, rock, où le jeune homme se met nu sur la scène en poussant de grands cris terribles. Décrire que la pitié du bien fait ou peut faire plus de mal que le mal. C'est bonne que l'on veut une justice où l'on aide, prend en pitié plus le coupable que la victime, où l'on demande à une mère de donner son pardon au tueur, violeur de son enfant, où la justice de la pitié fait faire toutes ces choses-là. Est-ce bien? Et si la mère ne le fait pas, elle est coupable, mal vue. Expliquez aussi que la mère du fils violé ou tué, qu'elle dise qu'elle, elle est plus coupable comme violeur parce qu'elle n'a pas joué suffisamment le rôle de mère qui était de protéger son enfant. Donc elle est plus coupable que le violeur, tueur, etc. Poser la question si les violeurs sont des enfants, parce que les enfants sont comme les autres, ils violent d'autres enfants. Que faut-il faire? S'il y a des crimes sexuels sur les enfants, c'est peut-être dû à l'école mixte qui empêche le développement sexuel de se former, de se faire. Peut-être qu'il faut passer par des actes sexuels, homosexuels, avant d'être hétérosexuel, c'est-à-dire adulte sexuellement. À la petite enfance et l'enfance, à l'adolescence, il faut passer par des étapes pour être adulte sexuellement. Si on supprime ce passage, on fusque la personne. Certaines le sont toujours et elles en ressentent toujours le manque toute leur vie. Elles deviennent perverses et leurs désirs sont faits à cause du manque qui a été dû parce qu'ils n'ont jamais passé dans leur petite enfance par ces préliminaires de sexualité. Alors, ils ont des difficultés à se retenir et passent à l'acte qui peut devenir un viol ou un meurtre par peur, honte ou impuissance. Ou aussi par peur de l'objet du désir. Alors, comme il a peur de cet objet du désir, il se punit sur cet objet et lui fait du mal, etc. Puis l'école mixte n'a rien résolu, même sur l'homosexualité, la perversion, toutes les perversions possibles. Alors, ceci prouve que, malgré tout, cet acte homosexuel est peut-être un acte obligé. Ça se trouve qu'on ne peut pas faire autrement. La mixité de l'école a été faite pour supprimer la perversion et l'homosexualité, mais pour les garçons comme pour les filles, parce que les filles ont aussi des problèmes de passage de la sexualité, pour le passage de la sexualité adulte, où il lui manque, où elles se sentent, comment dire, où elles ont des préoccupations elles aussi. On trouve ça c'est une chose qui est à étudier. En tout cas, c'est une chose qui est à étudier. Et c'est même urgent à étudier, même si ça touche à l'égalité sexuelle. On veut garder l'école mixte parce que l'on s'imagine qu'elle est moins dangereuse pour l'évolution sexuelle et qu'elle fait l'égalité des sexes et qu'elle permet l'évolution sexuelle normale. Mais il faut, malgré le militantisme féminin, peut-être supprimer l'école mixte. L'impôt de la région est injuste parce qu'il est le même pour tous, quel que soit le revenu et la fortune. L'impôt sur le revenu est plus juste. On a diminué l'impôt sur le revenu et augmenté celui de la région. Égal augmentation d'inégalité. Il faut supprimer la région qui sert à rien en France d'avoir créé des régions. La France n'est pas un pays si grand que ça. Centraliser les dépenses dans les ministères. Puisque, pourquoi est-ce que la région s'occupe de certaines choses alors qu'il y a un ministère pour cette chose-là? La région fait double. Pour les mairies aussi. Il ne faut pas qu'une mairie joue aux petites principautés avec des conseils comme des conseils des ministres. Supprimer certaines dépenses qui sont doubles aussi. C'est pas à la mairie, qui sont doubles ici du moment qu'il y a des ministères. Ce qui fait que les citoyens payent deux fois les choses et peut-être même trois fois avec la région. Ce qu'il faut, c'est supprimer la région et pour les mairies, délimiter ce dont elles doivent réellement s'occuper. Il n'y a rien de plus. Le pays a besoin de faire des économies. Et il faut centraliser les dépenses. De toute façon, les impôts, l'impôt sur le revenu a diminué un peu, ce qui fait que les ministères continuent à recevoir de l'argent pour faire certaines choses qu'ils ne font plus. Ce qui fait qu'on dépense deux fois, le citoyen paye deux fois la chose, une fois au ministère qui ne sert à plus rien, et une fois à la région, et sans compter les mairies. qu'il faut, c'est renationaliser ou interdire la nationalisation des postes, du téléphone, des trains, des routes, des télécommunications, etc. La sécurité sociale doit revenir et être dirigée par l'État. Pour ce qui est du renseignement téléphonique, le 12 doit revenir. C'est nuisible qu'on les supprime, qu'on les démantelé, parce que cela donne du travail. Par exemple, au Maroc, il met au chômage en France et dans les autres pays d'Europe. Lorsque j'écoute la voix au téléphone, c'est le cafard. Peur de ne pas t'avoir assez aidé. Lorsque je suis au téléphone avec toi, je me sens en infériorité, trouve rien à te dire. Alors je me sens coupable parce que je n'ai pas réussi à t'apporter un peu de douceur. J'ai peur du silence et que ce silence te fasse du mal. Peur aussi de l'ennui. Mais moi, je me sens si nul à côté de toi. Je n'ai rien d'intéressant à te dire, pas de culture, rien. Je me sens responsable de ton bien-être. Tu es si fragile, je t'aime. Moi aussi je suis fragile, peut-être plus que toi. Parce que je ne sais rien. J'aimerais dire quelque chose de moi. J'aime comme s'il était un ange perdu parmi les vivants et qui souffre de ne pas trouver son semblable. Mais j'ai une sensation de dégoût, de grand vide. J'ai l'impression d'avoir tout dit. Et que l'on m'a tout enlevé, oui, vidé. D'avoir été violé à 6 ans, compris à 50 ans, le pourquoi de ma vie ratée, de ma timidité, d'avoir tout perdu. Études, sexualité, désir honteux, souffrance, morale. Les jeunes ont des difficultés à entrer dans le monde du travail parce qu'ils ne supportent pas l'autorité, la discipline des adultes. Ils ont des difficultés aussi à accepter la morale. Je n'ai pas du tout envie d'écrire cette histoire, ni une autre d'ailleurs. Nous sommes le 1er mai. Je n'aime pas cette fête. Fête du travail, c'est idiot. Et pour moi, le travail, c'est tous les jours de l'année. Un auteur n'est jamais en repos. Son cerveau est toujours en éveil, et s'il ne trouve pas à lui donner quelque chose à créer, ça le rend malade. Mais moi, en ce moment, même si j'ai quelque chose à faire, je n'ai pas envie de le développer. Ça ne me dit plus rien. C'est pas libre de développer une histoire. Et au moment de la développer, on s'aperçoit qu'on n'a plus envie de l'écrire. Et puis, pour bien écrire, il faut avoir l'esprit en paix, ne pas avoir d'ennui. Et là, j'en ai toujours. Ne jamais se mettre avec quelqu'un que vous connaissez et faire des choses ensemble. Ne jamais donner les pleins pouvoirs à quelqu'un parce qu'après il deviendra dictateur. Je suis pas contre les dictateurs, dans certaines circonstances c'est utile, comme en ce moment en France. Mais un dictateur qui doit être pour le bien d'une cause, un pays, non un dictateur qui l'est pour ses biens personnels. Dans le privé ou la vie professionnelle, certains font chanter les autres en disant qu'ils font tout, et c'est pour cela qu'ils ont le droit d'être tyranniques vis-à-vis des autres. Ils abaissent les autres en les humiliant et à ce qu'ils se sentent coupables parce qu'eux font tout. Mais c'est eux qui ont voulu tout faire et qui ont voulu tous les pouvoirs et que tous les, pour que tout leur appartienne. On agit de cette façon en étant syndicaliste et votant PS, bien entendu. Bon, maintenant il va falloir écrire cette petite histoire qui ne me dit plus rien. On ne peut même pas dire que ce sera une petite fantaisie. Non, rien. C'est plutôt une mélancolie fiction. J'ai commencé quelque chose de plus intéressant. Le garçon aux yeux verts. Commencer, c'est-à-dire préparer le résumé et même y mettre en chapitre avant d'écrire la chose, chose que je ne fais jamais. Là, je le ferai plus tard, lorsque je serai plus tranquille. Je commencerai à écrire jusqu'à 11 heures. Parce que maintenant, il va falloir c'est que j'aille à la radio pour mon émission. Je vais être arrêté dans tous les coins de rue pour la vente du muguet que des jeunes bohémiens ou des cités, etc. Certains auront fauché leurs herbes, je ne sais où. J'aime pas cette façon qu'ils ont de nous forcer à prendre la chose. Maintenant, il faut tâcher d'oublier mes ennuis. C'est pas facile, mais il le faut pour entrer dans cette histoire qui deviendra une radiovision si je le peux. Voilà plus d'une semaine que j'ai fini d'écrire « Le garçon aux yeux verts ». Disons peut-être, pour être précis, une semaine et un jour. J'ai eu le courage d'écrire pendant ce mois de juillet, si chaud et lourd. Pour ceci, je me suis levé à 4 heures du matin pour écrire avant les grosses chaleurs. Mais malgré tout, ça a été très dur. De tout après, qu'après la journée où on ne peut pas se reposer avec cette chaleur. Mais enfin, c'est fini. Je ne peux pas pour le moment enregistrer l'histoire parce qu'il fait encore très chaud et cela risquerait de mettre en panne mes appareils et de me rendre malade de fatigue. Alors j'attends vers septembre. Le temps me paraît long et la création me manque. Je me lève à 4 heures, sors jusqu'à 8h30 pour bien marcher, puis je fais des courses et après lecture et repos. J'ai relu la Chartreuse de Parme, dont j'avais gardé un souvenir mitigé. Maintenant que je l'ai relu, j'en ai été emballé. Et j'ai été acheter d'autres livres aussi. Relu Jules Roy. Relu Jacques d'Alphonse Daudet. Livre très beau et dur que j'avais déjà lu mais dont je ne me souviens plus vraiment. Alors pour ce qui est des souvenirs de Jules Roy, 1925-1965, c'est très intéressant. On a envie de lire ses livres. Lu Céline, ses deux grands romans, Mort à crédit et Voyage au bout de la nuit. livre dur, fort, pur. Des personnages très savoureux, très drôles et en même temps forts. La dernière partie de Mort à crédit qui se passe à la campagne, c'est l'anti-Giono et anti-auberge de jeunesse, etc. Et dire que j'ai failli lire ces livres lorsque j'étais très jeune. Mais une bibliothécaire me l'a déconseillé en me disant que c'était écrit d'une façon bizarre. J'en ai lu une demi-page et j'ai arrêté. J'étais con, c'est dommage. Enfin, mon appareil magnétoscope est réparé après plus d'un an de réparation. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.